Jean Lebrun, bonjour.
Bonjour Sébastien.
La marge de l'histoire revient aujourd'hui sur les Jeux Olympiques d'hiver à Grenoble. C'était en 1968.
Et comment les a-t-on décroché ? C'était en 1964.
La radiodiffusion française vous invite à écouter...
1968, Grenoble organise les Jeux Olympiques.
Lorsqu'on pense Grenoble aujourd'hui, on évoque surtout une cité champignon ultra-moderne. Mais son noyau est toujours là, identique à quelques enseignes près, à la petite ville du siècle dernier, endormie avant l'ère de l'électricité et des sports d'hiver, au cœur d'un massif alpin de pénétration difficile. Il aura fallu les Jeux d'hiver pour faire sortir de sa torpeur ce Grenoble-là.
Voilà, à chaque attribution des Jeux Olympiques, on nous répète les mêmes clichés. Aujourd'hui, c'est grâce à eux, la Seine-Saint-Denis va rattraper son retard en 2024. Pareillement, Grenoble aurait comblé le sien en 1968. Il est vrai que de toutes les agglomérations françaises, c'est elle qui a connu la plus forte croissance démographique des années 60. Il est vrai que, ville industrielle traditionnelle, elle est davantage devenue ville sportive. Néanmoins, ses atouts auraient à eux seuls provoqué le développement du tertiaire et l'arrivée de nouvelles couches sociales dans la ville. Mais peut-être pas aussi vite. Hubert Dubedoux, le maire en fonction à l'ouverture et jusqu'en 1983, n'aurait pas eu besoin des Jeux pour faire de Grenoble l'étonnant laboratoire qu'elle fut. Il disait « Une ville olympique, c'est bien, mais l'eau qui coule dans les robinets, c'est encore mieux. » Pour gagner les municipales à Grenoble, il n'a pas suffi de déclarer sa flamme. L'eau, l'endettement sont les sujets plus décisifs. Donc les souvenirs des Jeux dans la ville sont un peu mêlés. Mais est-ce l'anniversaire rond, 1968-2018, la ville semble prête à les réveiller. Sont prévues notamment une exposition au musée dauphinois, l'organisation de Jeux de la jeunesse, etc., etc. On notera cependant qu'Albertville est plus à l'aise avec la mémoire de son édition, 1992. Elle a créé une maison qui leur est dédiée. Sans doute à l'étroit dans son passé industrieux, avait-elle davantage besoin de la clé des Jeux pour ouvrir son avenir. Chamonix, 1924, Grenoble, 1968, Albertville, 1992. On notera encore que la moitié des Jeux d'hiver ont eu lieu dans le massif alpin européen, entendu au sens large. Il est donc compréhensible qu'une nouvelle candidature de Grenoble pour 2008 est échouée et que celle d'Annecy pour 2018 ait mordu la poussière. Le CIO a sagement choisi, pour le 6 février 2018, Pyeongchang, en Corée du Sud, à quelques dizaines de kilomètres de Pyongyang.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Clémentine Métainier, bonjour.
Bonjour.
Journaliste indépendante, d'innombrables projets, même en Asie, beaucoup en Afrique. Et puis celui que vous caressez de fabriquer un documentaire sur les JO de Grenoble de 68. Votre famille est arrivée à Grenoble après. Vous êtes née bien après. On dit quand ?
En 1990.
Et vous connaissez des jeux, les pistes de ski, les souvenirs dans les stations de sport d'hiver ?
Oui, en fait, c'est un peu chronologique. J'apprends à skier vers 4-5 ans sur la fameuse piste de Killy, le fameux. Je vais au musée dauphinois avec l'école, voilà, quand je suis petite. Je travaille à la Maison de la Culture en étant étudiante. Et puis, lors de randonnées dans le Vercors, je vois les éléphants blancs, on les appelle, hein, les vieux équipements des JO. Et puis, j'habite un quartier populaire, la Villeneuve. Et de ma fenêtre, je vois le village olympique.
Vous avez rencontré déjà beaucoup de témoins de ces jeux, par exemple, dans l'ancien village olympique, vous avez une certaine affection pour eux, un couple de vieux amoureux.
Oui, j'ai traversé la route pour faire leur connaissance. J'avais entendu parler d'eux depuis longtemps, Aimé et Gabi. Alors ça s'invente pas en plus comme prénom. Et eux, ils sont arrivés la veille des JO. Janvier 1968, premiers habitants de ces bâtiments hein, qui venaient d'être construits pour accueillir les sportifs, ils sont restés dans le même immeuble. Donc ils en ont des choses à raconter et surtout, ils ont énormément d'archives de l'époque.
D'autres témoins, d'autres visages ?
Il y a beaucoup de gens que je suis toujours en train de rencontrer, notamment les ouvriers, on y reviendra. Et puis des gens aussi qui étaient opposés dès 68 au JO, c'est intéressant de les rencontrer. Et puis il y a aussi des sportifs qui sont encore dans le Vercors, dans leur caverne on va dire, c'est dur de les trouver.
Le premier témoin qu'on va entendre, c'est un son qui vient de vous. Lui c'est un ancien élu et un partisan acharné des Jeux Olympiques. Il s'appelle Alain Arvin-Béraud et... il a beaucoup fréquenté le musée de la Révolution française, à Vizil, non loin de Grenoble, l'ancienne résidence des présidents de la République, parce que la recherche de la préhistoire des Jeux Olympiques, à laquelle il s'est largement consacré, l'a mené jusqu'à la Révolution française.
C'est Gilbert Rome qui présente le projet d'instituer la Première République française. Et dans sa présentation, il annonce que pour célébrer cette fondation de la Première République, donc, qui date du 22 septembre 1792, les révolutionnaires organiseront des Jeux Olympiques. Ce qui paraît incroyable. Et effectivement, le 22 septembre 1796, soit quasiment un siècle jour pour jour avant la rénovation de Coubertin à Athènes, les gouvernants français organisent ce qu'ils appellent la première Olympiade de la République. Et, comme j'étais au musée de la Révolution française à Vizil, Philippe Borde me dit « Mais on a une gravure qui représente la première Olympiade de la République ». Ce qui était incroyable, c'était une course de chars à l'antique, qu'on connaît à travers des films de Ben Hur, etc., qui avait eu lieu sur le Champ de Mars.
Alors ça, c'est une gravure, ainsi que d'autres papiers conservés, au château de Vizil. Mais pour être plus spécifiquement dauphinois, parce que le député Rome, il venait de Rion, le prêtre qui célèbre la première messe olympique en Grèce en 1896, c'est un dauphinois.
Henri Didon. Et d'ailleurs, c'est lui qui aurait inventé la devise olympique au moment des Jeux dont il va participer au séminaire du Rondeau. Parce que ce que a révélé en fait Alain Harvin-Béraud, qui est un passionné de sport, c'est que le concept de Jeux olympiques modernes serait né en 1832 au séminaire du Rondeau à Grenoble.
Bien sûr.
Vous le saviez ?
Bien sûr, ça va de soi. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Le père Didon était là ?
Le père Didon était là, mais il était jeune. Et cet Henri Didon se fait remarquer par sa prestance olympique, sportive, et c'est comme ça qu'après, en plus, c'est une figure, un prédicateur, un prêtre, et donc il se fait connaître.
Il représenterait un fil dauphinois, oui, qui justifierait la pelote des Jeux Olympiques de 1968. Je ne suis pas sûr, sauf votre respect, Clémentine Métainier, que ces arguments aient beaucoup servi à ceux qui portaient la candidature des Jeux Olympiques. Il y a eu pour la première fois un film d'accompagnement de la candidature qui a fini par l'emporter au troisième tour en 1964. Et ce film, il est signé Jacques Lesage et il fait davantage référence à la géographie qu'à l'histoire.
Issu du polissage de l'ère quaternaire, les Alpes, Grenoble, capitale alpine à laquelle on accède par Lyon, Genève, Marseille, Turin. Au sein de la Cluse, formée par les eaux descendues des cimes, favorisée par la plus vaste étendue plane que l'on puisse trouver dans le sillon alpin, 250 000 citadins font de Grenoble une métropole régionale. Des routes hardies, tracées à travers les neiges comme pour apporter l'oxygène au cœur de la cité. L'évasion, blanche ou verte suivant les saisons, est à la porte, toujours ouverte des montagnes. Plénitude. Un soleil bien tempéré taille d'un ciseau allègre des copeaux d'ombre et de lumière.
Je ne savais pas le climat de Grenoble si constamment agréable, mais quand même, le rapport de Grenoble avec la montagne qui paraît évident là dans le film de Jacques Lesage. Alors, j'ai bien, il y a un institut de géographie alpine fondé par Raoul Blanchard, mais il est parfois marqué de contradictions. Nous parlons de l'époque d'avant 68.
En tout cas, c'est pas ce que retient l'histoire. On attribue souvent cette idée des JO à un préfet, également au maire. Mais en fait, dans les années 50, le tourisme alpin est quand même en plein essor avec le développement des sports d'hiver. Et il y a deux hommes.
Mais le développement des sports d'hiver, ça se fait pas vraiment à partir de Grenoble, bien qu'un syndicat d'initiative y ait été créé très tôt.
Ce sont les stations elles-mêmes qui se développent. Mais donc, il y a deux personnes qui s'appellent Georges Cumin, qui était l'ingénieur de ponts et chaussées, et un urbaniste, Laurent Chappy, qui est architecte de la station de Courchevel, et eux, ils ont participé à l'aménagement de la station de ski de Champs-Rousses, qui fait également cet essor des sports, et c'est un peu par hasard qu'ils se retrouvent dans les salons de la préfecture de l'Isère, en présence du préfet, et là ils vont dire « Mais Grenoble est en retard, en effet, et si on organisait les Jeux ?» Donc c'est vraiment, ça part aussi d'eux, des personnes de terrain, qui connaissaient les stations de ski.
Et puis ils font un maire. Alors il se trouve qu'a été élu en 1959, un maire qui a l'avantage d'être à la fois gaulliste, donc assez proche du pouvoir, sportif, ça a été le chirurgien du maquis des Sept-Lots pendant la guerre et c'était sportif de travailler là-haut.
Donc lui, il est né en 1912. Alors pour la jeune génération, ça reste qu'un hôpital, malheureusement, l'hôpital
Michelon.
Surtout
que vous n'avez pas donné son nom. Alors le docteur Michelon.
Le docteur Albert Michelon. Donc il était chirurgien et lui s'est engagé dans la résistance, effectivement, dans le maquis du Grésivaudan et plus précisément dans le maquis des Sept-Lots. Et il a monté notamment une antenne chirurgicale. Donc il s'est fait connaître pour ça. Et donc il arrive, effectivement, gaulliste. Et il se fait élire en 1959. Il prend la suite de Léon Martin. Et ensuite, il s'est fait connaître par ses grandes... Il a quand même été moderne, on va dire, dans ses choix de l'urbanisme Grenoble. C'est un peu le fil rouge de Grenoble, ses choix urbanistiques et son développement.
Enfin, moderne, sans beaucoup de respect pour le patrimoine, comme l'étaient beaucoup de maires modernisateurs des années 1960. Mais racontez-nous le succès de la candidature. C'est un coup de bluff par beaucoup d'aspects.
C'est un coup de bluff, et surtout que ça dure, il faut l'expliquer, 4 ans. Entre 1960, le dépôt de la candidature le 24 novembre, et 1964, donc à Innsbruck, le jour même de l'inauguration des Jeux d'hiver d'Innsbruck en 1964. Et c'est un coup de bluff parce qu'en fait, Grenoble n'est pas du tout préparée pour ces Jeux. Donc il semblerait que elle est écrite dans le dossier de candidature. Non, il ne semble pas, c'est un fait. Grenoble possède tous les édifices nécessaires aux réceptions d'apparats et protocolaires, ainsi que les organismes indispensables à la vie d'une grande cité.
Ça, c'est sur le papier.
C'est juste faux. Voilà. Donc, Grenoble va jouer là-dessus, mais en fait, je pense qu'il y a un intérêt aussi pour que Grenoble ait première ville qui les aura, ces JO, en dehors d'une station de ski, après Chamonix.
Chamonix, voilà. Qui n'était qu'une station,
qui et puis
c'était en 1924. Les embarras de la candidature vont être accrus par les circonstances inattendues de l'élection municipale. Le bon docteur Michelon, si dynamique soit-il, il est battu, et il est battu par un candidat qui vient du diable Vauvert, qui n'est même pas de Grenoble, qui vient d'arriver à Grenoble, qui s'appelle Hubert Dubedoux.
Avant d'être élu, il a un cercle, il va voir les gens, il va voir les Grenoblois, il s'entoure bien comme il faut, jusqu'au jour où il a un problème de robinet.
Ah, on revient à la question de l'eau qui est toujours centrale dans les élections municipales à Grenoble.
On dit d'ailleurs
que... On se
souvient
que... de M. Carignon et de M. Avry et son adversaire. Bon, bref.
Et l'histoire dit que c'est à cause d'une histoire de robinet qu'il aura été élu.
Il faut être précis, Clémentine Métainier. Il y a une baignoire, il habite un étage supérieur, il aime sa femme et il n'aime pas que sa femme doive se lever très tôt le matin pour...
Un jour, il se réveille, puis dit « J'en ai marre, je cite, j'en ai assez de voir ma femme qui depuis 2 ans se lève tous les jours à 5h du matin pour faire la provision d'eau dans la baignoire au 4e étage de la rue La Canale où nous habitions. »
Et donc, groupe d'action municipale, alliance avec les socialistes et le PSU qui était important, le Parti Socialiste Unifié à l'époque à Grenoble. Cette liste devance de peu la liste communiste et Michelon est battu au deuxième tour. Il restera président du comité d'organisation des Jeux Olympiques, ce qui n'ira pas sans difficulté parce que les deux hommes, évidemment, ne s'accordent que modérément. Cependant, quelqu'un aurait pu faire lien entre eux. C'est le chauffeur de la mairie qui a servi successivement le docteur Michelon, puis Hubert Dubedoux. On l'entend.
Marcel Chion a été le chauffeur des deux maires qui ont mené cet événement à terme. Le docteur Albert Michelon, signataire de ces Jeux, élu président du comité d'organisation, après avoir été battu au municipal de 65 par Hubert Dubedoux, celui qui a dû les gérer.
Au début, ça brassait beaucoup, tout le monde était un petit peu survolté et tout. Et puis, plus on approchait de la date des Jeux Olympiques, plus les responsabilités se centralisaient sur un homme, sur Hubert Dubedoux. Parce qu'il me le disait toujours, Marcel, si ça cloche, ça sera le maire. Et effectivement, je me souviens, lorsque j'étais allé le chercher à Bron, c'était pas Satolas encore, et il revenait de Paris, il avait obtenu... les milliards nécessaires pour la patinoire et il manquait plus que sa signature. Et je me souviens, il m'en avait parlé, ça, c'est à l'époque, 5 milliards, c'était beaucoup d'argent.
5 milliards par-ci, plusieurs milliards par-là. C'est l'État qui continue à porter la candidature, même si les responsabilités pleuvent sur Dubedoux.
Alors en fait, l'État est intervenu, c'est un chiffre qui est important, à 74,9% des dépenses de ces JO. Néanmoins, ce qui reste dans la mémoire, c'est que il a fallu rembourser ensuite ce que Grenoble avait s'était endetté auprès de la caisse, notamment des dépôts et des consignations, sur 25 ans, avec un taux élevé de 5,2%.
C'est-à-dire que les dépenses que Grenoble consentait, c'était soit l'augmentation des impôts, soit l'emprunt.
Oui, mais sauf que pour rembourser l'emprunt, il a fallu augmenter les impôts.
D'accord.
Et donc, sur 25 ans, c'est ce que gardent en tout cas les les Grenoblois en tête, c'est que pendant plus de 25 ans, ils ont dû rembourser ces impôts-là.
Enfin, les Grenoblois anciens, parce que c'est une ville en constant renouvellement, mais il y a des vieux de la vieille. Alors, encore un chauffeur.
Ça fait longtemps que vous êtes taxi à Grenoble ?
35 ans.
Ça a dû drôlement changer, hein, depuis que...
Ah oui.
C'est quoi ça, ce grand bâtiment, là-bas ?
Le grand bâtiment, c'est le nouvel hôtel de ville. Et là, c'est le parc de l'exposition.
Qu'est-ce qu'il y avait, là, alors, avant ?
Le grand parc de l'exposition de 1925, l'exposition internationale de la Hue Blanche. Un des derniers vestiges, c'est la tour qui est derrière nous.
Vous y êtes allé, vous, en 25 ?
Ah oui, oui. Il y avait tout ce qui intéressait l'électricité internationale. Il y a le nouvel hôtel de police, l'hôpital sud, qui doit mettre 200 et quelques lits à la disposition de, à partir de fin décembre. Ah voilà la plus belle réussite que la ville de Grenoble ait pu avoir. La nouvelle gare.
Elle est belle, on dirait Orly,
oh,
comme ça.
Oui. Elle est splendide.
Et là, à gauche, qu'est-ce que c'est, le grand bâtiment ?
Là, c'est la maison de la culture.
Ah, oui.
C'est un bâtiment formidable, surtout vu son prix.
Ça coûtait cher ?
Je crois que c'est dans les 3 milliards et quelques.
Bah, c'est quand même moins que la patinoire. Panorama, l'émission télévisée d'Olivier Todd, le papa d'Emmanuel Todd.
Ah bon ?
Ça ne nous rajeunit pas. Heureusement, vous êtes là, Clémentine Métainier, 27 ans, et vous posez les bonnes questions, parce que dans les reportages, à l'époque, on ne parlait pas de ceux qui construisaient tous ces bâtiments.
Alors, ce qu'on dit, c'est qu'au paroxysme des chantiers olympiques, entre 1966 et 1967, ces chantiers regroupèrent environ 4000 ouvriers. Parce qu'en fait, effectivement, j'ai vu même des images d'archives, des photos de l'époque, c'est incroyable. Et c'était très haut, il fallait aussi inventer tout le matériel pour construire tous ces équipements-là. Et donc, de nombreux Grenoblois firent alors la découverte que ces ouvriers venaient notamment du Maghreb. Et, on connaît hein, l'immigration italienne à Grenoble, mais pas les Maghrébins. Donc ils sont venus, ils savaient qu'il y avait du travail. Mais sauf que la ville n'avait pas anticipé l'arrivée d'autant d'ouvriers. Donc ils ont été dans des conditions... très très mauvaise, notamment surpeuplée dans les rues dégradées de Grenoble, dans des foyers Sonacotra à l'époque. Et donc ce n'est que plus tard le regroupement familial qui a permis de regrouper leur famille. Voilà. Moi j'ai rencontré Ahmed qui était vitrier au village olympique, ou bien Mohamed qui était chauffagiste.
Qu'est-ce que ça dit pour eux, les Jeux Olympiques ?
Ils se souviennent des chantiers extrêmes, des chantiers énormes, ils n'avaient jamais vu ça. Par contre ils se souviennent aussi des conditions d'accueil, qui se sont améliorés après, parce que la ville s'est dit, il va falloir quand même qu'on fasse des efforts, et c'est notamment des constructions de bâtiments qui ont été faites après, de logements, pour pouvoir loger ces personnes-là.
Mais les constructions concernent aussi la voirie, alors les contemporains qui causent dans le poste disent, ce sont maintenant des carrefours à l'américaine qu'on voit autour de Grenoble.
Alors si on monte en haut de la Bastille, pour ceux qui sont déjà allés ou qui sont grenoblois, on voit les trois massifs. On voit le massif du Vercors, le massif de Belledonne et le massif de la Chartreuse. Il fallait les relier, ces massifs, entre eux, et notamment par des routes. Hein. Donc il y a 194 kilomètres de routes nouvelles qui ont été faites, une rocade de contournement, des autoroutes, des ponts, l'élargissement des routes aussi pour faire passer les camions qui montaient avec tout le matériel, notamment de retransmission télévision vers les stations olympiques.
Alors ça permet, ces nouvelles voies de communication, d'aller tout chousse. Alors ça, c'est le mot fétiche des Jeux Olympiques de Grenoble. Je ne me souvenais pas très bien. Première apparition, selon le dictionnaire Robert, c'est un mot qui vient de l'allemand, 1932. Mais alors le mot chousse, qui l'a choisi ? Qu'est-ce que ça veut dire d'autre que très vite, à ski ? Et est-ce que c'est un mot qui reste, quand vous menez votre enquête, Clémentine, dans les mémoires des uns et des autres ?
Oui, c'est d'ailleurs ce qui revient souvent, la mascotte chousse, ou même la mascotte chousse, ou même des gens de ma génération qui disaient, ah, je me souviens, moi, mon père avait des petits produits dérivés ou des combinaisons chousse. C'est des petits souvenirs après sur l'historique.
Oui, mais plus important qu'Alain Rey comme référence, Niki Nicolas, qu'on va entendre. Vous vous souvenez de Niki Nicolas ?
Pas du tout.
Moi non plus.
Dans le monde d'aujourd'hui, pour gagner, faut du chousse. Et la chance vous sourit lorsque l'on...
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Clémentine Métainier, nous évoquons l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver à Grenoble en 1968. On se souvient peut-être de la mascotte Schuss, en tout cas le musée tauphinois de Grenoble. On conserve un exemplaire, c'est en plastique. On verra ça dans une exposition en 2018 consacrée par le musée dauphinois aux Jeux Olympiques de 68. Il y aura des Jeux Olympiques de la jeunesse, toutes sortes de manifestations. Ce qui n'était pas évident à organiser parce que la mémoire des Jeux, Clémentine Métainier, est un peu embarrassée, complexe dans la ville.
L'engouement des Grenoblois, il est en demi-teinte. Que ce soit la vieille génération, enfin ceux qui ont connu les Jeux ou ceux d'aujourd'hui, souvent ce qui revient, trop loin, trop cher. C'était loin, les stations de ski étaient entre 15 et 60 km, il fallait pouvoir se déplacer et puis surtout c'était cher. C'est surtout dans la deuxième quinzaine d'ailleurs, dans la deuxième semaine, que les prix ont baissé des transports pour aller dans les stations de ski.
Vous voulez dire qu'il n'y avait pas beaucoup de monde ?
Il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y a eu quand même un petit souci sur les ambitions du monde attendu. Puis également une population grenobloise. Il y avait beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'employés à revenus modestes qui n'en avaient un peu que faire d'aller voir des jeux. Et puis bien sûr, ce qui revient aujourd'hui, c'est le côté écologique. Il y a des éléphants blancs, il y a des équipements,
On met sans arrêt en avant le thème du tremplin de Saint-Nizier de Moucherotte qui est devenu une ruine.
Oui. Alors, devenu une ruine, moi, je suis allée le voir pour la première fois il y a 2 semaines, pour tout vous avouer. C'est très impressionnant. On le voit un petit peu sortir même de l'autoroute, on en donne un aperçu. Le maire me disait que c'est bon, c'était pas forcément un fardeau pour lui, mais qu'on n'avait jamais réussi à trouver, tant c'est cher, c'est extrêmement cher de savoir quoi en faire. Donc, c'est une vraie question. Et aujourd'hui, pour un maire écolo ou pour une mairie écolo à Grenoble, c'est des questions dont il faut se saisir, ça.
La mémoire est d'autant plus complexe qu'on voit des partisans des Jeux de la haute époque qui, quand s'est posé la question d'une nouvelle candidature de Grenoble pour 2008, était non pas tout juste, mais vent debout.
Exactement. Alors il y a un exemple symptomatique, c'est un monsieur qui s'appelle Jacques Hennebert, que j'espère rencontrer bientôt. Lui, il était conseiller municipal et membre du comité des Jeux Olympiques en 68, il était proche de Dubedoux, mais il était opposé à la candidature de Grenoble pour 2018. Et donc, il a notamment participé à créer le comité anti-olympique de 2008, avec une grosse mobilisation. Alors certains diront qu'elle a permis de ne pas faire gagner à Grenoble les JO, ou en tout cas, voilà.
Alors, il y a une solution qu'on a trouvée à Grenoble pour la célébration en 2018. On va raconter, non pas comment Grenoble a été marqué par l'olympisme, mais toutes les traces que Grenoble a laissées dans l'olympisme. Bon, alors, il y a la mascotte, c'est la première fois qu'il y a un film de promotion avec la candidature. C'est la première fois que quoi encore ?
Très important, la première fois que les épreuves sont retransmises à la télé en couleur.
C'est la première fois que l'Office va assurer la transmission en continuité de programmes en couleur réalisés à l'extérieur, et cela aussi bien pour les besoins propres de la seconde chaîne que pour ceux des télévisions étrangères participantes, et en particulier la chaîne américaine ABC, qui assure la couverture des Jeux pour tout le continent américain en couleur.
En fait, il faut considérer 2 choses. D'une part, que le nombre de quarts de reportage qui seront simultanément présents à Grenoble ou dans les environs, dans la région olympique, est assez élevé puisqu'il est de 6, que le nombre des caméras mises en service, le nombre des caméras électroniques avoisinera environ 70, et que beaucoup d'épreuves se dérouleront simultanément en 2 lieux différents. On était obligé d'assurer les bonnes transmissions, la coordination des programmes et la qualité des images, de mettre en place donc à Grenoble un centre technique comparable à la régie finale du centre Cognac-G.
Et Jean-Claude Killy en gros plan. La dernière phase des Jeux Olympiques de ski alpin va commencer. Jean-Claude Killy, très décontracté. Il se place. Le départ va être... C'est parti. Et il est parti dans son style habituel en sautant la minute de Jean-Claude Killy maintenant. Vous entendez là, certainement l'acclamation qui monte, qui descend plutôt avec Jean-Claude Killy, qui passe en 50-36 pour Jean-Claude Killy.
Killy, 3 médailles d'or et on n'oubliera pas Guy Perilla, et chez les femmes, Marielle Guatchel, Isabelle Mir, Annie Famos, etc. Mais la télé a aussi filmé le ski de fond.
première révélation.
Première fois.
De ce sport. Qui était en fait un sport norvégien, hein. On n'attribuait pas du tout aux Français. Et là, c'est la découverte d'un sport populaire, d'un sport qui s'avéra être démocratique parce que facile en fait d'accès quand même, même si effectivement il fallait joindre le Vercors. Mais une fois qu'on y était, très rapidement se sont créés des foyers de ski de fond qui permettaient d'avoir accès pour pas trop cher à du matériel. Donc les Grenoblois et les Français ont découvert ce sport à la télé en 68.
Alors Grenoble a marqué l'olympisme par toutes les premières fois qu'elle a provoqué. Il y a d'autres premières fois ?
Un symposium de culture.
C'est-à-dire donc, qu'on a dispersé des statues ?
Oui. 15 artistes venus du monde entier sont venus pour participer, on va dire, à se rassembler pour créer l'art dans toute sa splendeur.
C'est enfin, un peu les calders ont marqué les esprits, d'autres œuvres moins. La première fois encore, la première fois qu'il y a du contrôle antidopage ?
Exactement. Et des caméras de contrôle sur les pistes.
Grenoble, 6 février 1968, 16h10, 60 000 personnes venues du monde entier retiennent leur souffle. Enfin, la cérémonie est un petit peu ennuyeuse. Le président du Comité Olympique International et le général de Gaulle ont l'air d'avoir froid. Ils ne sont pas particulièrement souriants. Les commentateurs disent que ce sont deux dinosaures. Mais enfin, il y a un jeune patineur, Alain Calma, et c'est la première fois que...
C'est la première fois qu'il y a cette prouesse technologique d'entendre les battements de son cœur quand il monte les marches qui le mènent à la vasque olympique.
Et Alain va se hisser sur les marches d'aluminium vers la vasque, sur les marches, autre symbole, un parachute et un drapeau olympique sont venus se poser là. Lorsque les organisateurs ont pensé à Alain Calma, ils se sont demandé avec inquiétude s'il n'était pas sujet au vertige. Une dernière fois, Alain Calma présente le flambeau. Ce sont théoriquement les battements de son cœur que l'on entend.
Et c'est ainsi, Clémentine Métainier, merci, que le cœur de la France a battu pour Grenoble en février 68. Je pense que vous aimez cette formule, elle est parfaitement convenue, hein, c'est ce qu'il fallait. Cette émission était préparée par Franck Olivard, Frédéric Martin et Ilinka Legulesco. Elle était réalisée par Audrey Ripouille avec à la technique Élise Christophe.